10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le monde ne suffit pas numéro 29, LMNSP pour les intimes, l'émission de géopolitique et d'actualité internationale de Transistor. À mes côtés, Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour Charlotte et bonjour à tous qui écoutez la première émission de Le monde ne suffit pas de l'année 2013-2014. Aujourd'hui, nous nous envolons vers un pays pas si lointain et pourtant bien mystérieux, la Russie.
Oui Antoine, ce pays s'est trouvé ces derniers temps très présent dans l'actualité et pour diverses raisons.
C'est le moins qu'on puisse dire. On a entendu parler du rôle crucial que la Russie, alliée du dictateur syrien Bachar al-Assad, a eu dans la gestion du conflit syrien. On a entendu aussi parler de la Russie suite à de nombreuses manifestations xénophobes, notamment suite au meurtre d'Egor Tcherbakov, un jeune russe, le 10 octobre dernier.
Bref, à l'heure du sinistre 7e anniversaire du meurtre d'Anna Politkovskaya, journaliste engagée, comment définir maintenant la Russie ? Est-ce une dictature comparable au régime soviétique dont elle a hérité du pays ? Ou bien est-ce une démocratie imparfaite tiraillée, comme tant d'autres pays, par les démons du nationalisme ?
C'est la question que Charlotte s'est posée, et elle vous propose des éléments de réponse avec Madame Melnik, professeure de russe, qui a fait ses études en Russie et qui y retourne régulièrement. Alors décollons immédiatement en Russie avec elle.
3, 2, 1, 0.
Le monde ne suffit pas.
Donc on va peut-être commencer par parler du climat nationaliste en Russie. On peut rappeler peut-être à nos auditeurs quelques faits récents qui sont souvent ignorés du public international mais qui sont révélateurs de l'état d'esprit nationaliste qui règne en Russie. Donc parmi ces faits, on note ainsi l'agression d'un ouzbek pour un IRD à Moscou le 16 octobre dernier, après en fait des émeutes anti-émigrés. L'agression aussi d'un diplomate néerlandais pour des raisons homophobes. Une rafle contre des émigrés caucasiens à Moscou, mais aussi et surtout le déclenchement de fortes émeutes populaires suite au meurtre d'un russe par un homme d'origine non slave les 14 et 13 octobre derniers. Et de plus, aujourd'hui, il y a eu des milliers de nationalistes russes qui défilaient dans les rues contre les émigrés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Qu'est-ce qui justifie, selon vous, un tel climat en ce moment en Russie ? Serait-ce plutôt lié à une histoire difficile avec d'autres nationalités ou plutôt... Est-ce que cela renverrait plutôt à un contexte économique difficile ?
Il faut peut-être partir de l'histoire. La Russie, avant la Révolution, était un empire colonial. Les Russes donc ont eu une expansion vers le sud, vers le Caucase, et vers l'est, vers l'Asie centrale. Et ils ont colonisé des peuples nomades en Asie centrale et des peuples tout à fait installés dans le Caucase, et d'une manière assez brutale, puisque chaque ville du Caucase, par exemple, porte le nom d'une ancienne forteresse. Donc il y a depuis... près de deux siècles, quand même une idée en Russie que les Russes, donc européens, sont supérieurs aux Noirs, comme ils les appellent entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas du tout africains, mais qui sont caucasiens, qui ont le teint plus basané peut-être, les caucasiens, ou qui ont un faciès plus asiatique, comme les gens originaires d'Asie centrale. L'Union soviétique était donc un groupement de 15 républiques, dont certaines étaient des fédérations, comme la Russie, dans laquelle il y avait de multiples nationalités, et les Russes dominaient l'ensemble. Tout le monde se référait à Moscou, et dans les républiques fédérées, il y avait une suprématie des Russes, même si les pouvoirs locaux étaient détenus aussi par des autochtones. Lorsque, il y a un peu plus de 20 ans, l'URSS s'est disloquée, il est apparu donc un certain nombre d'États indépendants dans le Caucase et en Asie centrale, et il y a eu une crise économique effroyable dans ces pays. La Russie a retrouvé plus rapidement une prospérité tout à fait correcte, et ces gens sont venus du Caucase et d'Asie centrale pour chercher du travail en Russie, en particulier dans les villes, et en particulier pour faire le travail que les Russes européens ne voulaient pas accomplir, en particulier tout ce qui est le travail des concierges qui nettoient les les cours, qui s'occupent donc du ménage dans les immeubles, dans les ascenseurs, tout ce type de travail. Dans le bâtiment, les travaux les plus rudes, les moins qualifiés et très très mal payés ont été confiés à cette population donc de migrants qui sont exploités effroyablement.
Comme peut-être pour les Jeux Olympiques de Sochi, on a vu que les conditions de travail sont vraiment effroyables. Est-ce que ce sont des immigrés qui réalisent ces travaux ?
En grande partie, oui. Et puis aussi, des Russes qui espèrent quand même avoir des salaires plus élevés, mais en travaillant dans des conditions effroyables, effectivement, puisque tout doit être terminé pour la période des Jeux Olympiques, donc au début de l'année 2014, effectivement. Et il y a une inimitié très forte entre Russes et Caucasiens ou Asiatiques. Dans certains quartiers de Moscou, les migrants, comme on les appelle, surtout ceux qui n'ont pas des papiers officiels ou qui travaillent justement sans être officiellement enregistrés, ont très souvent très peur. Ils ont très peur de ce qui peut leur arriver, et l'exploitation est terrible, et en même temps ils sont dénigrés considérablement. Vraiment, on les accueille de très mal travailler.
Est-ce que cette ambiance xénophobe un peu latente en Russie est utilisée par l'État? Et ensuite, est-ce que vous pensez que le nationalisme russe débouchera un jour sur un type de régime vraiment antidémocratique comme on a pu en voir pendant l'histoire du XXe siècle?
Je pense que l'État, les autorités sont partagées. D'une part, la police, on a l'impression que la police laisse faire les nationalistes et est très violente avec les migrants. Mais il est certain que parmi les migrants, il y a aussi des bandes qui ont des activités tout à fait répréhensibles. C'est assez complexe. Tous ces bandits qui sont éventuellement coupables de différents crimes, de trafic de drogue, de prostitution et autres choses, sont bien sûr présentés comme des gens absolument épouvantables et comme la majorité des migrants. Donc sur ce plan-là, je crois que la police, effectivement, n'est pas impartiale. Pour l'État, actuellement à Moscou, je suis rentrée de Moscou hier, et justement une amie me disait que ils ont disparu, les migrants, et que elle avait par exemple un chantier chez elle, donc une équipe d'ouvriers devait refaire sa salle de bain, et puis j'ai des piles de carreaux qui sont posés sur le sol, ils sont tous partis, ceux qui faisaient les travaux, donc les moins qualifiés, et puis personne n'est venu les remplacer.
Donc on a la chance d'avoir avec nous une invitée très intéressante, puisque vous avez vécu à la fois la période soviétique, la période de l'URSS et la période contemporaine, récente, de la Russie. Donc on aimerait bien vous demander, pour vous, qu'est-ce qui a changé depuis la chute de l'URSS et qui va dans le sens d'une démocratisation de la Russie? Et au contraire, qu'est-ce qui pourrait encore s'apparenter à cette période plutôt antidémocratique de la vie russe? Quelles promesses, en fait, n'ont pas été tenues?
Je pense que beaucoup de choses ont changé, quand même, et ont changé d'une manière positive. Je ne suis pas de ceux qui éprouvent la nostalgie de l'Union soviétique. Je pense que c'était un système politique et économique épouvantable, d'une inefficacité totale, et vraiment qui ne favorisait pas le bonheur pour les individus, ça j'en suis persuadée. Moi, ce qui me frappe le plus, je pense, c'est la liberté de voyager, dont profite quand même une bonne partie de la population. Il y a énormément d'étudiants qui se déplacent, de jeunes couples, de familles, et à travers le monde, et je trouve que c'est une chance fabuleuse pour les Russes qui étaient enfermés à l'époque soviétique dans leur pays, pour lesquels tout déplacement en particulier, je me rappelle des professeurs de français qui n'étaient jamais venus en France et qui pensaient ne jamais pouvoir venir dans ce pays, et c'était d'une tristesse effroyable. incroyable. Bon, il y a eu une amélioration du niveau de vie aussi, en particulier progressive dans les grandes villes, c'est certain. Mais moi, je trouve qu'il y a eu une amélioration réelle. Beaucoup de gens ne se souviennent pas des choses qui étaient épouvantables, ne se souviennent pas de la pénurie catastrophique qui régnait dans le pays. Et maintenant, c'est vrai que l'abondance toute simple dans tous les magasins, c'est quand même une grande chose. Je suis retournée il y a un an et demi dans une ville où j'avais vécu en 73-74, où j'étais assistante à l'institut pédagogique de cette ville qui s'appelle Koursk, qui est une ville de province à 600 km de Moscou. Je me rappelle que les gens allaient faire leurs courses alimentaires à Moscou parce qu'il n'y avait rien à manger dans cette ville. C'était terrible. Moi, je sais que quand j'entrais dans un magasin d'alimentation qu'on appelait gastronome, je ressortais aussitôt parce que j'étais absolument écœurée par l'odeur de poisson pas exactement frais que l'on pouvait y sentir. C'était d'une tristesse. Et quand je suis retournée dans cette ville, j'ai trouvé vraiment que, au moins, vraiment sur le plan des magasins, des produits qui étaient offerts à la population et à l'ensemble de la population, c'était positif. J'étais aussi assez émue de voir que le cinéma où j'allais dans les années 70 était redevenu une église. C'était aussi assez sympathique de penser que la liberté religieuse se développait.
Alors on va commencer peut-être par des petits rappels géopolitiques sur le fonctionnement politique de la Russie, qui est une république fédérale. Le chef de l'État s'appelle le président et est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans, renouvelable une fois uniquement. Le pouvoir législatif est représenté par l'Assemblée fédérale composée de la Douma d'État, formée par 450 députés élus au suffrage universel direct pour 5 ans, et du Conseil de la Fédération, formé de 166 représentants des sujets de la Fédération. La constitution de la Fédération de Russie actuelle a été adoptée par référendum national le 12 décembre 1993. Elle remplaça, après la crise constitutionnelle russe de 1993, la constitution soviétique de 1977, en vigueur alors dans la République socialiste fédérative soviétique de Russie.
Depuis son ascension au pouvoir, Vladimir Poutine, déterminé à restaurer ce qu'il appelle la verticale du pouvoir, gouverne avec un style considéré par certains analystes comme autoritaire, qui aurait mis fin à une certaine libéralisation politique introduite par Gorbatchev avec la perestroïka et glasnost qui s'était poursuivie sous Yeltsin, certains médias occidentaux et les opposants politiques parlant à son sujet de néo-tsarisme. Donc normalement, le président ne peut enchaîner plus de deux mandats puisque il n'est renouvelable qu'une seule fois. Mais on peut s'interroger sur son application dans la vie de tous les jours. En effet, Vladimir Poutine a enchaîné deux mandats à la tête de la Fédération de Russie de 2000 à 2008, comme c'est autorisé. Puis, il cède le pouvoir à Dmitri Medvedev, mais reprend alors la tête du gouvernement, donc il y a un certain échange des pouvoirs, pour ensuite revenir depuis 2012 à la tête de la Fédération.
Quelle définition les Russes ont de la démocratie en fait ? Est-ce qu'il y aurait une définition un peu différente de la nôtre, sûrement véhiculée par une histoire différente, une autre relation à la démocratie ?
Je crois que les Russes, dans leur ensemble, ne sont pas très intéressés par la démocratie. Donc ils ne se posent même pas la question d'avoir telle ou telle définition. Pour eux, les démocrates, pour la majorité d'entre eux, les démocrates, ce sont les gens qui sont arrivés au pouvoir en 91, et qui n'ont pas su profiter peut-être de ce qu'ils étaient au pouvoir pour rendre le peuple heureux comme il aurait aimé l'être. Effectivement, juste après la fin de l'URSS, la situation économique a été épouvantable parce que les entreprises qui n'étaient pas viables, parce qu'elles étaient très mal gérées, donc ont dû fermer en grand nombre et que peu à peu, il a fallu des gens très doués pour la gestion et pour remonter tout cela, mais ça a été quand même compliqué. Et puis certains ont bénéficié justement de largesse du pouvoir et donc le pouvoir a été compromis de ce fait. Ce qui fait que la démocratie est plutôt mal vue. En revanche, depuis 2 ans, on constate un mouvement quand même très positif depuis les élections parlementaires de décembre 2011. Et ça s'est poursuivi avec les élections présidentielles de mars 2012. Il y a beaucoup d'électeurs qui exigent que les élections soient des élections honnêtes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bourrage des urnes, qu'il n'y ait pas de personnes non inscrites sur les listes et n'habitant pas du tout dans la circonscription qui viennent voter en masse. Et il y a vraiment toute une série d'organisations, d'observateurs qui sont mises en place et par des gens qui vraiment veulent que s'il y a des élections, ce soient des élections correctes, honnêtes.
Une des qualités premières d'une véritable démocratie est la présence de liberté d'opinion, notamment en politique. Est-ce que cette condition est respectée en Russie? C'est la question qu'on peut se poser, notamment en lien avec l'affaire Navalny, qui a eu quelques retentissements médiatiques, même en France. Cet homme qui cristallise les oppositions à Poutine avait en effet été accusé de détourner des fonds, puis condamné à 5 ans de prison et finalement relâché sous surveillance le 19 juillet 2013, nous le rappelons à nos auditeurs. Accusation que beaucoup qualifiaient de politique, car Navalny avait en effet l'ambition de participer aux municipales de Moscou face aux candidats sortants proches de Poutine.
Cette affaire n'est pas sans rappeler celle concernant l'oligarque russe Mikhaïl Khodorkovsky, actuellement en prison depuis 2004 pour malversation financière, donc comme Navalny, dans l'entreprise Yukos. Pour certains, son arrestation s'inscrit dans une chasse aux sorcières contre les pratiques mafieuses des oligarques qui ont prospéré sous la présidence de Yeltsin. Pour d'autres, Khodorkovsky est une victime politique car il a osé s'opposer au président Vladimir Poutine. Quelle est la position en fait, des Russes en général par rapport aux élections donc, qui ont été souvent truquées, on l'a vu, à l'opposition notamment, on peut penser à cette affaire avec Navalny ou alors Khodorkovsky. La position des Russes en général par rapport à Poutine qui est assez mal vue à l'étranger mais qui ne l'est pas forcément en Russie.
Poutine était très très populaire pendant ses deux premiers mandats. Les choses se sont dégradées ces derniers temps. Poutine n'arrive plus à faire le plein d'opinions favorables. Sans doute parce que on dit de lui que c'est l'homme le plus riche de Russie et que donc il a détourné beaucoup d'argent, lui et son entourage. Et ce qui a déçu beaucoup de gens. Il y a encore quand même une majorité, d'ailleurs il a été élu au premier tour, et je pense que si les élections avaient été plus honnêtes, il aurait été quand même élu au premier tour. Poutine n'est plus très, très populaire, dans les grandes villes en tout cas. Et puis il y a une nouvelle génération qui me paraît quelque chose de très intéressant. La nouvelle génération éduquée, les étudiants ont été quand même parmi les principaux acteurs des mouvements de décembre, janvier, jusqu'à mai, décembre, janvier, donc 2011-2012, et jusqu'à mai 2012. Il y avait des manifestations très, très intéressantes de gens qui semblaient être capables d'exercer une vraie liberté. Ce qui est un problème pour les Russes, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire de la liberté. Ils n'ont pas été habitués, et ils n'en ont pas tellement besoin. Et la plupart sont encore plus désireux de posséder des biens, d'avoir un niveau de vie plus élevé. C'est pour eux une priorité. Beaucoup plus que la liberté et le respect de la démocratie. Mais il y a quand même vraiment une nouvelle génération dans laquelle, personnellement, je mets beaucoup d'espoir.
Mais à ce moment-là, pourquoi Poutine reste-t-il au pouvoir? Est-ce parce qu'il y a un manque d'incarnation de l'opposition, qu'il n'y a personne vraiment pour représenter et incarner ce nouvel espoir?
Pour le moment, ça concerne peu de gens. Les élections municipales qui ont eu lieu le 8 septembre ont montré que le parti du pouvoir, Russie Unie, était quand même présent partout. Il n'y a que deux villes, je crois, où la personne qui a été élue et qui est devenue maire, qui était chef de liste et qui est devenue maire, donc n'était pas un représentant de Russie Unie. C'était à Yekaterinburg. Donc une très grosse ville dans l'Oural, une ville très prospère et très où Roisman a été élu et c'est vraiment un démocrate qui lutte essentiellement contre le trafic de drogue depuis longtemps et qui veut lutter avec des méthodes justement humaines. Et puis à Petrozavodsk, qui est une ville donc de Carélie, au nord de la Russie près de la Finlande, une jeune femme a été élue qui est proche du parti Yablok, un parti de démocrates, justement. Mais en dehors de cela, partout ailleurs, ce sont les candidats de Russie Unie qui ont été élus. Alors, il est vrai qu'à Moscou, le candidat de l'opposition, Navalny, qui a pu être candidat parce que... Donc, Sabianin... Oui, enfin... l'ont autorisé et surtout et même l'ont poussé, ont voulu qu'il soit candidat. L'idée était de légitimer vraiment le candidat qui allait être élu. Ils étaient persuadés, tout le monde était persuadé que Navalny aurait maximum 10% des voix, et il a obtenu près de 30% des voix à Moscou, ce qui est quand même très important. Et Sabianine, qui jusque-là faisait fonction donc de maire depuis 3 ans, depuis que le maire précédent, Loujkov, avait été démis pour des malversations assez importantes, il a voulu donc que Navalny soit candidat, alors que Navalny avait quelques problèmes avec les autorités judiciaires. Et puis, il a obtenu beaucoup plus de voix. Il pensait, justement, Navalny pensait que si le nombre de voix qu'il obtenait était inférieur à 20%, cela voudrait dire que les élections sont truquées. Et donc, à ce moment-là, il envisageait une grande manifestation le 8 au soir, le 8 septembre au soir et le 9 au soir. Or, il se trouve qu'il a obtenu près de 30% des voix. Donc, les élections ont été, effectivement, se sont passées dans la légalité. Il y a eu beaucoup d'observateurs qui l'ont constaté. Et Sabianine a été certes élu au premier tour, mais quand même 30% pour son adversaire, qui est considéré comme un opposant notoire, c'est quand même très important.
Selon vous, est-ce qu'on se sent libre de penser et d'exprimer ce qu'on veut en Russie ? Il y a beaucoup de clichés qui sont véhiculés sur le climat d'espionnage, le climat un peu mafieux. Est-ce qu'en Russie on se sent libre de dire ce qu'on veut, ou on a peur de voir une voiture noire vitre teintée débarquer au feu rouge et nous emporter?
On n'est plus en Union soviétique quand même. Il y a une liberté, d'abord il y a la liberté de la presse qui existe, mais c'est une liberté trompeuse parce qu'il y a, une presse d'opposition, mais les tirages sont faibles. Mais le pouvoir maintient ces organes de presse. Il y a une station de radio qui s'appelle l'Écho de Moscou, Echo Moskvy. Il y a aussi une chaîne de télévision qui s'appelle Dosht, la pluie. Il y a donc un ou deux magazines, un hebdomadaire, les Nouvelles de Moscou. Donc il y a quelques titres. Donc ça existe. On peut, lorsqu'on veut être informé, on peut l'être. Il y a aussi la liberté de se rassembler, puisque par exemple la semaine dernière, le 30 octobre, c'est la journée du souvenir des victimes des répressions soviétiques, en particulier staliniennes. Les gens se sont rassemblés sur la place de la Loubianka, la place qui s'appelait autrefois place Dzerzhinsky à l'époque soviétique. Et Dzerzhinsky est l'homme qui a fondé la Tcheka, donc la police politique, qui ensuite est devenue, après avoir porté plusieurs noms, KGB puis FSB. Et la statue de Dzerzhinsky qui se trouvait sur cette place a été déboulonnée en août 1991. On a parlé au début des années 2000 de réinstaller cette statue. Finalement, on avait oublié complètement ce projet. Aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. Donc, c'était quand même le premier tchéquiste. Mais c'est vrai que les tchéquistes, c'est-à-dire les gens de la police politique, sont au pouvoir, puisque M. Poutine est un ancien officier du KGB et a été président de ce qui a succédé au KGB, le FSB actuel, qui a son siège justement place de la Loubianka. Donc il y a une liberté certaine. Les gens sont quand même actuellement beaucoup plus prudents. En particulier, ils ont un peu peur lorsqu'ils font partie de milieux culturels, du milieu du spectacle, parce que au mois de juin a été voté au Parlement et puis ensuite ratifié par le président au mois d'août une loi contre ce qu'on appelle pour la protection des enfants, contre la propagande, ce qu'on appelle en russe les orientations sexuelles non traditionnelles, c'est-à-dire contre... voilà, une jolie pré-périphrase pour évoquer l'homosexualité. Alors, en particulier, donc, c'est la lutte doit avoir lieu, en particulier dans tous les moyens de communication de masse, donc au théâtre, au cinéma, dans la danse, etc. Or, c'est très bien que les homosexuels sont quand même très nombreux dans tout le monde du théâtre, de la danse, de la musique et des arts en général. Et donc, on a l'impression qu'il y a une certaine censure dont il faut tenir compte. Des organisateurs de festivals moscovites ou russes en général, lorsqu'ils viennent choisir des spectacles en Occident, se censurent eux-mêmes.
Oui, donc la vie d'Adèle ne passera pas en Russie.
Alors la vie d'Adèle, justement, la première a eu lieu hier au centre Gogol, qui est un centre culturel un petit peu d'avant-garde et un petit peu audacieux. Mais bon, je ne sais pas s'il va être présenté dans beaucoup de cinémas.
On voit en ce moment dans l'actualité que la Russie a un fort poids international, de nouveau peut-être. Notamment, elle a toujours une présence très très forte dans les pays de l'ex-URSS. Peut-être, on peut penser notamment à la frontière sud-Ossète, qui est, on peut dire, peu à peu colonisée par les puissances russes, qui grignotent petit à petit ce territoire. Est-ce que la Russie a encore une vocation à exercer une forme d'impérialisme ? Et est-ce que cette puissance, en fait, passe forcément par une intransigeance antidémocratique ? Est-ce qu'elle serait forcée de passer outre les droits de l'homme pour s'affirmer sur la scène internationale et de montrer un visage, en fait, uni de la Russie ?
En ex-URSS, la démocratie n'existait pas. Donc les autres pays n'ont pas un régime politique plus brillant que Moscou, loin de là. Il est certain que la Russie a une vocation impériale. C'est évident que la Russie veut reprendre sa domination, en particulier de, moi je pense à l'Ukraine, qui a une dette énorme pour tout le gaz qu'elle n'a pas payé. Et bien entendu, donc son indépendance politique est extrêmement discutable, parce que sa dépendance économique est totale. La Russie veut montrer qu'elle est vraiment la plus puissante. Et à l'égard des pays du Caucase, des pays d'Asie centrale, en dehors du Kazakhstan, qui est un pays très riche, qui a énormément de ressources du sous-sol, comme la Russie, je pense que la Russie veut s'imposer, oui, comme une puissance impériale. Et la Russie a aussi le souvenir du temps où l'URSS était la deuxième superpuissance. Et ça, ce statut a été perdu en 91, ça a été une douleur effroyable pour les gens qui parfois savaient qu'ils vivaient mal, mais savaient qu'ils étaient les habitants de la grande Union soviétique. Ensuite, quand ils ont vu qu'ils vivaient encore plus mal et qu'ils étaient les habitants de la petite Russie par rapport à ce qu'avait été l'Union soviétique, ils en ont beaucoup souffert. Et les gens sont assez fiers de l'attitude à l'égard de la Syrie, parce qu'on parle de la Russie, parce que la Russie est puissante, elle est capable de dire non.
C'est les États-Unis, tout de même. C'est, on dirait, le retour des deux grands géants de la guerre froide.
Mais oui, on a l'impression qu'alors que les États-Unis n'ont, à mon avis, pas à faire grand-chose de la Russie, je pense que la Russie, ces derniers temps, essaie de retrouver dans les États-Unis son ennemi d'autrefois. Lorsque M. Obama est arrivé au pouvoir, on a eu un espoir d'un type de relation, d'un partenariat, d'un apaisement des relations russo-américaines. Mais actuellement, on n'en parle plus de cela. Et je pense que la Russie, enfin, le russe moyen, est assez fier de pouvoir montrer que la Russie dit non et qu'on l'écoute.
Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez déjà un petit peu abordé le sujet, ce qui, à votre avis, ferait changer la Russie vers peut-être une vie plus démocratique, plus ouverte ? Est-ce que le changement est déjà en train de s'effectuer ? Est-ce que les Russes ont confiance, ont un espoir en un avenir plus démocratique ? Et si jamais ce changement s'effectue, qu'est-ce qui serait en fait le déclencheur pour vous ?
Je pense que l'économie serait le déclencheur si il y avait une évolution positive sur le plan économique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Parce qu'il y a une fuite des capitaux terrible et les gens qui gagnent beaucoup d'argent en Russie n'investissent pas en Russie. Ils investissent justement dans les pays occidentaux, ils mettent leur argent dans les banques occidentales. Et ça, je pense que si on arrivait à inverser ce mouvement-là, je pense que ça entraînerait beaucoup de choses. Il y a moi je crois vraiment à une jeune génération qui n'a pas été marquée par le système soviétique. Il y a des jeunes gens qui sont nés en 90, 91, qui ont vécu autre chose, qui sont reliés grâce à Internet au monde entier et qui connaissent bien l'Occident. Je crois que moi je compte un peu sur cela. Je crois que les réseaux sociaux, Internet, pour le moment, ne sont pas du tout censurés. J'espère que ça ne sera pas le cas. Et permettent aux gens d'être au courant, ou à des jeunes gens évolués, bien sûr, d'être au courant de beaucoup de choses. D'autant plus que la Russie est le pays du monde où il y a le plus d'ordinateurs par habitant. Souvent, on ne le sait pas, cela, que vraiment, c'est un pays où Internet est très, 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 très développé.
Eh bien, donc, merci pour tout. Merci de nous avoir accordé un peu de temps pour participer à cette émission. Et merci.
Voilà, c'est fini pour ce numéro 29 de Le Monde ne suffit pas.
Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour un nouveau numéro de LMNSP.